Il y a une spécificité de la Suisse qui est que c'est une démocratie très directe où la population est régulièrement sollicitée. Pendant plus de 120 ans, seuls les hommes avaient le droit de vote et les hommes étaient les personnes qui avaient le droit de se prononcer sur l'accessibilité des autres parties de la population, en particulier les femmes, au vote. Et c'est un des rares pays dans lequel les hommes ont été sollicités pour se prononcer. Donc en 1971, ce sont l'ensemble des hommes qui votaient qui a dû se prononcer sur la question pour les femmes. Je pense que c'est quand même l'exemple des autres pays. Hein, et c'est en ça qu'aucun pays n'est isolé dans le monde. C'est de voir que dans l'ensemble des autres pays, les femmes avaient le droit de vote, que ça n'avait pas fondamentalement modifié la situation, et puis qu'il était temps que la Suisse cesse d'être un îlot. Mais c'est aussi le combat des femmes suisses, hein, évidemment, qui a abouti au fait qu'elles obtiennent le droit de vote, et pas seulement des femmes, mais des hommes, parce que de tout temps, il y a aussi eu des hommes qui étaient très progressistes.
La population étrangère ou d'origine étrangère est très importante en Suisse, ce qui apporte une certaine mixité à la société suisse. Cette mixité contribue-t-elle à l'émancipation de la condition de la femme ?
Dans un certain nombre de domaines, il y a un apport clair, hein, notamment des femmes étrangères. Par exemple, dans les universités suisses, au départ, il y avait beaucoup de femmes étrangères qui étudiaient, notamment à Zurich, beaucoup de Russes, mais aussi à Lausanne et dans d'autres endroits. Et je crois que ça a montré aussi des voies pour les Suissesses, que les études leur étaient aussi possibles. Donc je pense que là, il y a un apport. Si on prend un autre domaine, l'égalité salariale, on voit par exemple qu'à Genève, où il y a beaucoup d'institutions internationales, c'est un des endroits où il y a le moins d'inégalités, de discrimination salariale entre les femmes et les hommes. Donc on voit qu'il y a des apports qui sont fructueux.
Peut-on parler à l'heure actuelle d'égalité en matière de formation ?
Au niveau de la formation obligatoire et post-obligatoire, en gros jusqu'à 18 ans, on observe que les filles réussissent bien, qu'elles réussissent parfois mieux que les garçons. Par la suite, on observe cependant qu'elles font des choix qui ne sont pas toujours à la hauteur de leurs bons résultats initiaux, hein, et qu'on ne le retrouve pas toujours dans les formations les plus pointues et les plus prometteuses du point de vue du développement professionnel. On observe encore énormément de stéréotypes dans les choix professionnels des filles et des garçons. Si la finalité elle est humaine ou considérée comme étant humaine, à ce moment-là, les femmes vont dans cette direction et n'ont pas peur de la technique. Mais si elles ont le sentiment que la finalité est technique, ce qui en fait rarement le cas, mais c'est là aussi le préjugé sur les différents domaines, eh bien, elles n'y vont pas. Je pense qu'il est important de dire constamment aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes, qu'il n'y a pas de déterminisme comme ça de genre. Que tous les métiers, toutes les actions sont ouvertes aux femmes comme aux hommes. Hein. Que ce qui importe, c'est ses compétences individuelles et puis ses intérêts propres. Et qu'il faut s'écouter à ce niveau-là. Et je pense que les familles doivent remettre en question les stéréotypes, doivent parler d'égalité, doivent ouvrir les choix pour les filles et les garçons, vraiment pour qu'ils se réalisent au mieux de leurs compétences et de leurs intérêts.
La femme accède-t-elle à la parité au sein même des entreprises en Suisse ?
Il faut que les entreprises osent ouvrir ce dossier, hein, osent ouvrir le capot puis aller regarder ce qui est. Peut-être qu'elles auront une bonne surprise, qu'elles réalisent l'égalité salariale et c'est parfait, il faut qu'elles s'en félicitent et qu'elles le communiquent, parce qu'il existe des entreprises qui sont parfaitement respectueuses, d'autres qui ne le sont pas mais qui ne le savent pas exactement. Donc qu'elles y aillent, hein, qu'elles aillent vraiment voir, parce qu'il y a parfois beaucoup de préjugé dans la fixation des salaires et c'est ce qui produit aussi de l'inégalité salariale. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est toute la problématique de la conciliation. Hein, il serait bon que les entreprises favorisent la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale. Elles ont tout à y gagner et il faut qu'elles le fassent pour les femmes, mais aussi pour les hommes, c'est-à-dire permettre le temps partiel si c'est le souhait des familles, mais aussi pour les hommes, pas seulement pour les femmes. La flexibilité du temps de travail, c'est une autre mesure. Le job sharing ou le partage d'activités, c'est une autre mesure. Il y a beaucoup de possibilités, de mesures différentes. Il faut que chaque entreprise s'interroge sur quelles sont les mesures dont les personnes ont besoin, quelles sont les mesures qui sont possibles pour mon entreprise. Je pense que dans ce domaine-là, on a encore une grande marge de progression, d'autant plus que les entreprises savent qu'elles risquent d'affronter des lacunes, des manques de personnel qualifié. Donc elles ont tout intérêt à rendre leur entreprise la plus attractive possible.
Quel rôle les hommes peuvent-ils jouer eux-mêmes dans la parité ?
Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils respectent le choix des femmes, qu'ils donnent la possibilité aux femmes de faire les choix qui leur conviennent le mieux. Et puis, il faut peut-être aussi qu'eux s'émancipent de certains préjugés et de certains stéréotypes, qu'ils osent s'écouter et qu'ils osent aussi réaliser leur désir. choisir. Je prends un exemple. On a un certain nombre d'enquêtes qui montrent que les hommes sont intéressés par le temps partiel, notamment parce qu'ils souhaitent investir plus dans leur vie familiale. Eh bien, il faut aussi qu'eux osent passer à l'acte, qu'ils osent aussi se battre pour obtenir cette possibilité de travailler à temps partiel. Ils ont eux-mêmes tout un travail de conviction à faire dans leurs entreprises.
Quel rôle les femmes peuvent et peut-être doivent-elles jouer en matière de parité ?
Il faut qu'elles osent remettre en question les stéréotypes, les préjugés, qu'elles s'écoutent, qu'elles ne se laissent pas enfermer, qu'elles osent s'inventer elles-mêmes au quotidien, qu'elles aussi se battent pour faire que les conditions cadres, les structures sociales se développent, pour qu'elles permettent cette activité professionnelle et cet engagement familial. C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais il ne faut pas s'arrêter aux obstacles. Il faut les voir, il ne faut pas être naïf, mais il faut aller de l'avant, il faut parler d'égalité, il faut parler autour de soi. Et puis j'aimerais encore ajouter qu'on a heureusement maintenant des modèles de femmes dans tous les domaines, hein, qui montrent que c'est possible. En 2010, la Suisse a eu 3 femmes pour les 3 plus hautes fonctions. Nous avions une présidente de la Confédération de Doris Leuthard qui était une femme appartenant au Parti démocrate chrétien. Pascale Bruder qui était au Conseil national, présidente du Conseil national pour le Parti socialiste. Et puis Erika Forster qui était présidente du Conseil des États et qui appartient au Parti libéral radical. C'est intéressant parce qu'on a ici 3 modèles de femmes dans 3 partis avec des programmes différents qui ont accédé à de hautes fonctions et la Suisse a continué de fonctionner parfaitement. Je ne veux pas dire qu'il faut toujours qu'il y ait 3 femmes à toutes les fonctions, ce n'est pas ça, mais montrer qu'il faut qu'il y ait toute cette diversité, que de temps en temps on ait une majorité de femmes, parfois une majorité d'hommes, parfois une mixité parfaite, mais que vraiment ça devienne une non-question, cette question des genres. Pour l'instant, on en est encore loin.